Émile Gaboriau, L'argent des autres, La pêche en eau trouble. L'aube du 1er novembre 1871 se levait pâle et glacée, blanchissant le faîte des toits. Une lueur livide et furtive glissait, comme au fond d'un puits, le long des murs humides de l'étroite cour de l'hôtel des Folies. Déjà montaient ces rumeurs confuses qui annoncent le réveil de Paris, dominées par le roulement sonore des voitures de laitiers, par le fracas des portes brutalement refermées, par le claquement clair des pas hâtifs sur le bitume des trottoirs. Maxence avait ouvert sa fenêtre et s'y était accoudé, mais bientôt il fut pris d'un frisson. Il referma la fenêtre, jeta du bois dans la cheminée, et s'allongea sur son fauteuil, présentant les pieds à la flamme. C'était un événement énorme qui venait de tomber dans son existence, et autant qu'il était en lui, il s'efforçait d'en mesurer la portée et d'en calculer les conséquences dans l'avenir. Il ne pouvait retenir du récit de cette fille étrange, de sa franchise hautaine à dérouler certaines phases de sa vie, de son effroyante impassibilité, de l'implacable mépris de l'humanité que trahissait chacune de ses paroles. Où avait-elle appris cette dignité si simple et si noble, ce langage mesuré et cet admirable respect de soi qui lui avait permis de traverser les cloaques sans y recevoir une éclaboussure? Et encore, sous l'impression de son attitude, de son accent et de son regard, « Quelle femme !» murmurait-il. Avant de la connaître, il l'aimait. Maintenant, il était bouleversé par une de ces passions exclusives qui s'emparent de l'être entier. Même il se sentait déjà à ce point sous le charme, subjugué, dominé, fasciné. Il comprenait si bien qu'il allait cesser de s'appartenir, que son libre arbitre lui échappait, que sa volonté serait entre les mains de Mademoiselle Lucienne, comme le bloc de cire entre les doigts du modeleur. Il se voyait si bien à la discrétion d'une énergie supérieure à la sienne que la peur le prenait presque. « C'est mon avenir que je risque, » pensait-il. Et il n'était pas de moyen terme. Il lui fallait ou fuir sur le champ, sans attendre le réveil de Mademoiselle Lucienne, fuir sans détourner la tête, ou rester, et alors accepter tous les hasards d'une incurable passion pour une femme qui ne l'aimerait peut-être jamais. Et il restait pantelant entre ces deux parties, comme un voyageur qui tout à coup verrait se bifurquer la route inconnue où il marche, et qui ne saurait laquelle prendre des deux voies ouvertes devant lui, sachant que l'une conduit au but et l'autre à un abîme. Seulement le voyageur, s'il se trompe et s'il le reconnaît, est toujours libre de rebrousser chemin. L'homme dans la vie ne peut plus revenir à son point de départ. Chaque pas qu'il fait est définitif. S'il s'est trompé, s'il s'est engagé sur la route fatale, tant pis. « Oh, n'importe !» s'écria Maxence. « Il ne sera pas dit que par lâcheté, j'aurais laissé s'envoler le bonheur qui passe à ma portée. Je reste. » Et aussitôt, il se mit à examiner ce que, raisonnablement, il était en droit d'attendre. Car il ne se prenait pas aux intentions de Mademoiselle Lucienne. En lui disant « Voulez-vous être ami ?» C'est bien cela qu'elle avait prétendu et voulu dire uniquement « ami ». Et cependant, songeait Maxence, si je ne lui avais pas inspiré un intérêt réel, ne serait-elle si entièrement confiée à moi? Elle n'ignore pas que je l'aime, et elle sait trop la vie pour supposer que je cesserai de l'aimer lorsqu'elle m'aura permis une certaine intimité. À cette idée, des bouffées d'espérance lui montaient au cerveau. « Ma maîtresse, jamais, évidemment, disait-il, mais ma femme, pourquoi pas ?» Mais presque aussitôt, le plus amer découragement s'emparait de lui. Il réfléchissait que Mademoiselle Lucienne avait peut-être à le choisir un si beau confident, quelque intérêt décisif qu'il ne soupçonnait pas. Et pourquoi non? Elle lui avait dit la vérité, il en était sûr, il l'eût juré. Mais lui avait-elle dit toute la vérité? Assurément non, puisqu'elle lui avait eu les explications de l'officier de paix. Quelles étaient-elles? À se résigner au rôle que lui avait imposé Van Kloppen, mais qu'avait-elle gagné? Était-elle plus avancée? Avait-elle réussi à soulever un coin du voile qui recouvrait sa naissance? Était-elle sur les traces de ses ennemis? Avait-elle découvert le mobile de leur haine? Ne serais-je pas, pensait Maxence, ne serais-je qu'un des pieds réunions de la partie qu'elle joue? Qui me dit que si elle la gagne, elle ne me plantera pas là? Peu à peu, malgré tout, le sommeil le gagnait, et lorsqu'il croyait calculer, déjà il dormait, en murmurant le nom de Lucienne. Le grincement de sa porte qui s'ouvra l'éveilla en sursaut. Il se dressa sur ses jambes. Mademoiselle Lucienne entra. « Comment ? » lui dit-elle, « vous ne vous êtes pas couché ?»« Eh bien, vous m'aviez recommandé de réfléchir, » répondit-il. « J'ai réfléchi. » Il consulta sa montre, elle marquait midi. « Ce qui l'empêche, » ajouta-t-il, « que je me suis endormi sur mon fauteuil. » Tous les doutes qu'il assiégeait au moment où le sommeil s'était emparé de lui se représentaient à son esprit avec une douloureuse vivacité. « Et non seulement j'ai dormi, reprit-il, mais j'ai rêvé. » La jeune fille arrêta sur lui ses grands yeux noirs et gravement. « Pouvez-vous me dire votre rêve ? » interrogea-t-elle. Il hésita. « Oh, s'il eut eu une minute seulement de réflexion, peut-être n'eût-il pas parlé. » Mais il était pris à l'improviste. « Eh bien, j'ai rêvé, répondit-il, que nous étions amis, dans l'acception la plus pure et la plus noble de ce mot, intelligence, cœur, volonté, ce que je suis et ce que je puis, je mettais tout à vos pieds. Vous acceptiez le dévouement le plus entier qui fut jamais, le plus respectueux et le plus tendre. Oui, nous étions bien amis, et sur une espérance à peine entrevue et jamais exprimée, je bâtissais tout un avenir de bonheur. » Il s'arrêta. « Eh bien ? » interrogea-t-elle. « Eh bien, au moment où je croyais toucher à la réalisation de mes espérances, il arrivait que tout à coup le mystère de votre naissance vous était révélé. Vous retrouviez une famille noble, puissante, riche. Vous qui n'avez pas de nom, vous repreniez le nom illustre que vous avez volé. Vos ennemis étaient écrasés et tous vos droits vous étaient rendus. Oh, ce n'était plus le huit ressorts de chez Brion qui s'arrêtait devant la porte de l'hôtel des Folies, mais une voiture largement armoriée. Cette voiture, timbrée à vos armes, était la vôtre, et elle vous attendait pour vous conduire à votre hôtel du Faubourg Saint-Germain, ou à votre château patrimonial. Vous y preniez place. » Il s'interrompit encore. « Et vous ?» demanda la jeune fille. Maxence maîtrisa un de ces spasmes nerveux qui se résolvent en larmes et d'un air sombre. « Moi, répondit-il, debout sur le bord du trottoir, j'attendais de vous un souvenir, un mot, un regard. Vous aviez oublié jusqu'à mon existence. Votre cocher enleva ses chevaux qui partirent au galop, et bientôt je vous perdis de vue. Et une voix alors, la voix inexorable de la réalité, me cria, « Oh, tu ne la reverras jamais !» D'un mouvement superbe, mademoiselle Lucienne s'était redressée. « Ce n'est pas avec votre cœur, je l'espère, que vous me jugez, monsieur Maxence Favoral, » prononça-t-elle. Il trembla de l'avoir offensée vivement. « Oh non, je vous en conjure » commença-t-il. Mais elle poursuivait d'une voix où vibrait toute son âme. « Je ne suis pas de ceux qui lâchement renient leur passé. » Le jour où l'officier de paix m'a tiré des prisons de Versailles, je lui ai dit que j'allais y rentrer, s'il ne me donnait pas sa parole de faire pour mon ami tout ce qu'il eût fait pour moi. Votre rêve ne se réalisera pas, jamais. On ne voit de ces choses-là que dans les drames du boulevard. Oh, s'il se réalisait pourtant, si la voiture armoriée s'arrêtait à la porte, le compagnon des mauvais jours, l'ami qui, pour payer ma dette, m'a offert l'argent de son moi, y aurait une place à mes côtés. Ah, oh, c'était plus de bonheur qu'il ne s'entend rêver, Maxence. Il eût voulu parler, inventer, pour traduire sa reconnaissance, des expressions nouvelles de ces mots qui semblent manquer aux situations excessives. Mais il suffoquait, et accumulé par tant d'émotions successives, les larmes montaient à ses yeux. D'un mouvement passionné, il saisit la main de Mademoiselle Lucienne, et la portant à ses lèvres, il la couvrit de baisers. Doucement mais résolument, elle se dégagea, et arrêtant sur lui son beau regard clair, « Ami, prononça-t-elle. Il eut suffi de son accent pour dissiper, s'il en eût eu, les illusions présomptueuses de Maxence. Mais il n'avait pas d'illusions. « Uniquement ami, répondit-il, jusqu'au jour où vous serez ma femme. Vous ne pouvez me défendre d'espérer, vous n'aimez personne. »
Personne.
Eh bien, puisque nous allons marcher dans la vie, du même pas et la main dans la main, laissez-moi croire que nous trouverons l'amour à un détour de la route. Elle ne répondit pas. Et ainsi se trouva scellé entre eux un traité d'amitié auquel ils devaient rester si exactement fidèles que jamais le mot d'amour ne monta jusqu'à leurs lèvres. En apparence, leur existence n'en fut pas modifiée. Chaque matin, comme par le passé, dès 7 heures, Mademoiselle Lucienne se rendait chez M. Van Kloppen, et une heure plus tard, Maxence partait pour son bureau. Le soir, ils se retrouvaient, et comme l'hiver était venu, ils passaient leur soirée sous la même lampe au coin du feu. Mais ce qu'il était aisé de prévoir arriva. Nature indécise et faible, Maxence ne tarda pas à subir l'influence du caractère énergique et obstiné de la jeune fille. Elle lui infusa, en quelque sorte, dans les veines, un sang plus généreux et plus chaud. Petit à petit, elle le pénétra de ses idées et de sa volonté, et lui en fit une. Il lui avait dit, en toute sincérité, son histoire, les misères de la maison paternelle, les rigueurs exagérées et le patrimoine de M. Favoral, la timidité soumise de sa mère, le caractère déterminé de Mlle Gilberte. Il ne devait rien dissimuler de son passé, de ses erreurs ni de ses folies, s'accusant même de celles de ses actions dont le souvenir lui était le plus pénible, comme d'avoir, par exemple, abusé de l'affection de sa mère et de sa sœur pour leur extorquer tout l'argent qu'elle gagnait. Il lui avait avoué enfin qu'il ne travaillait qu'à son corps défendant, contraint et forcé par la nécessité, qu'il n'était rien moins que riche, et que, bien qu'il prît son repas du soir chez ses parents, ses appointements lui suffisaient à peine et que même il avait des dettes. Mais il espérait bien, ajoutait-il, qu'il n'en serait pas toujours ainsi, et qu'il verrait le terme de tant de misère et de privation. « Mon père a pour le moins 50 000 francs de rente, disait-il. Tôt ou tard, je serai riche. » Loin de sourire à Mademoiselle Lucienne, cette perspective lui fit froncer le sourcil. « Ah, votre père est millionnaire, interrompit-elle. Eh bien, je m'explique comment à 25 ans, après avoir refusé toutes les positions qui vous ont été offertes, vous n'avez pas de position. Vous comptiez sur votre père et non sur vous. Jugeant qu'il travaillait assez pour deux, vous vous êtes bravement croisé les bras, attendant que vous échoue la fortune qu'il amasse et que vous considérez comme vôtre et dont il ne vous paraît que l'administrateur. » Cette morale devait sembler un peu roide à Maxence. Mais je pense, commença-t-il, que du moment où on est le fils d'une famille riche, on a le droit d'être inutile, n'est-ce pas, acheva la jeune fille. Oh, certainement non, mais il n'y a pas de mais qui tienne. Et la preuve que votre calcul a été mauvais, c'est qu'il vous a conduit là où vous êtes, et qu'il vous a enlevé votre libre arbitre et le droit de faire votre volonté. Se mettre à la discrétion d'un autre, cet autre fût-il un père, est toujours niais, et on est à la discrétion de celui dont on attend de l'argent qu'on n'a pas gagné. Croyez bien que votre père n'eût pas été si dur s'il eût été bien convaincu que vous ne sauriez pas vous passer de lui. Il voulait discuter, elle l'arrêta. Vous faut-il la preuve que vous êtes à la merci de monsieur Favoral? Reprit-elle. Soit, vous avez parlé de m'épouser. Ah, si vous vouliez. Eh bien, allons donc en parler à votre père. Oh, je suppose. Mais vous ne supposez pas. Vous êtes parfaitement sûr qu'il vous refuserait tout net et sans réplique, sans consentement. Je saurais m'en passer. Oui, vous lui feriez des sommations respectueuses, voulez-vous dire, et vous passeriez outre. Je l'admets, mais lui, savez-vous ce qu'il ferait? Il s'arrangerait de telle sorte que jamais vous n'auriez un centime de sa fortune. Maxence n'avait jamais songé à cela. Donc, reprit gaiement la jeune fille, bien qu'il ne soit encore aucunement question de mariage, sachez vous assurer l'indépendance, c'est-à-dire de quoi vivre, et pour ce, travaillons. C'est de ce moment que Madame Favoral put remarquer en son fils ce changement qui l'avait si fort étonné. Sous l'inspiration, sous l'impulsion de Mademoiselle Lucienne, Maxence avait été soudainement pris d'une ardeur de travail et d'un désir de gagner dont jamais on ne l'eût cru capable. Il n'arrivait plus trop tard à son bureau maintenant, et n'avait plus à la fin de chaque mois des 10 et 15 francs d'amende à payer. Sitôt levé, tous les matins, Mademoiselle Lucienne venait frapper à sa porte. Allons debout! Lui criait-elle. Et vite, il sautait en bas de son lit, et il s'habillait pour pouvoir la saluer avant qu'elle ne partît. Le soir, sitôt la dernière bouchée de son dîner avalée, il accourait se mettre à copier les rôles qu'il procurait chez le successeur de M. Chapelain. Et souvent, il travaillait fort avant dans la nuit, pendant que près de lui, Mademoiselle Lucienne s'appliquait à quelque ouvrage de broderie où elle excellait, ouvrage bien rétribué d'ailleurs, car la mode commençait à venir pour les femmes de ces vêtements brodés à la main, si élégants et si coûteux. La jeune fille était le caissier de l'association, et elle apportait à l'administration du capital social une si habile et une si sévère économie que Maxence eut bientôt achevé de désintéresser ses créanciers. Savez-vous, lui disait-elle à la fin de décembre, qu'à nous deux, ce mois-ci, nous avons gagné plus de 600 francs. Le dimanche seulement, après une semaine dont pas une minute n'avait été perdue, il se permettait quelques distractions. Si le temps n'était pas trop mauvais, ils sortaient ensemble, dînaient dans quelque modeste restaurant, et terminaient leur journée au théâtre, à l'opéra-comique le plus souvent, car Mademoiselle Lucienne avait gardé une véritable passion pour la musique de ce temps où, au Batignolles, elle avait pour voisin un vieux compositeur. Ayant ainsi une existence commune, jeunes tous deux, libres, n'ayant leur chambre séparée que par la largeur du palier, il était difficile que l'on crût à l'innocence de leur relation. Les propriétaires de l'Hôtel des Folies y croyaient moins que personne. Mais comme le jour où le fortin s'était avisé de dire son avis à ce sujet, Maxence, furieux, l'avait menacé de donner congé. Alors elle n'en soufflait plus mot devant lui et se contentait de rire aux larmes avec les autres locataires de ce qui leur paraissait le plus inutile et le plus ridicule des hypocrisies. Il n'était pas seul de leur avis. Mademoiselle Lucienne, ayant continué de se montrer au bois les jours où l'après-midi était belle, le nombre n'avait fait que croître des imbéciles qui l'obsédaient, qui la suivaient ou qui la faisaient suivre. Parmi les obstinés se distinguait M. Costeclar, lequel se plaisait à déclarer, sur sa parole d'honneur, avoir perdu le sommeil et le goût des affaires depuis le jour où, en compagnie de M. Saint-Pavin, il avait aperçu Mademoiselle Lucienne. Les démarches de son valet de chambre et les lettres qu'il avait écrites étaient demeurées stériles. M. Costedard avait fini par prendre le parti d'agir de sa personne. Également, il était venu se poster de faction devant l'hôtel des Folies. Sa stupeur fut plus grande lorsqu'il en vit sortir Mademoiselle Lucienne, donnant le bras à Maxence, et son dépit fut plus grand encore. « Mais cette fille est stupide, pensa-t-il, de me préférer un garçon qui n'a pas 10 louis par mois à dépenser. Mais elle rira bien qui rira le dernier. » Et comme il était homme d'expédient, il s'en alla, dès le lendemain, flâner aux environs du comptoir du Crédit Mutuel, ayant rencontré, par hasard, M. Favoral, il lui raconta que son fils, Maxence, se ruinait pour une demoiselle dont les toilettes faisaient scandale, lui insinuant délicatement qu'il était de son devoir à lui, père de famille, de mettre ordre à cela. C'était l'époque précisément où Maxence songeait à se faire admettre dans les bureaux du comptoir de Crédit Mutuel. Il est vrai que l'idée n'était pas de lui et que même il l'avait très vivement repoussée quand, pour la première fois, Mademoiselle Lucienne la lui avait offerte. « Être employé dans la même administration que mon père, s'était-il écrié, retrouver à mon bureau le despotisme intolérable de la maison paternelle, oh, j'aimerais mieux casser les pierres sur les chemins. » Mais la jeune fille n'était pas d'une trempe à renoncer aisément à un projet conçu par elle et longuement médité. Elle revint à la charge avec cet art infini des femmes qui s'entendent si merveilleusement à tourner la volonté qui de front leur résiste. De quelque côté que se rejeta Maxence, il se trouva comme cerné par cette idée qui sembla dès lors se dégager spontanément et plus pressante chaque fois des moindres incidents de l'existence quotidienne. Qu'il lui échappa une plainte de la situation actuelle ou qu'il s'oublia à bâtir dans l'avenir quelque château en Espagne, la réponse de Mademoiselle Lucienne était la même. Nous aurions tort de nous plaindre, car malgré l'exiguïté de nos ressources, notre position s'est améliorée. Mais nous aurions tort également de nous bercer d'espérances riantes, car nos gains sont si modestes qu'il nous faudra des années avant d'amasser le capital indispensable à la plus humble entreprise. Conclusion, il faudrait chercher une autre chose que cet emploi de chemin de fer, qui ne rapporte que 200 francs par mois. Si dominé que fut Maxence, les continuelles attaques de la jeune fille ne pouvaient lui échapper. Ah, ça, pensait-il, mais pourquoi diable tient-elle si fort à me voir avec mon père dans les bureaux de M. Thaler? Ce qui l'empêche que, peu à peu, il finit par se persuader que ce parti était le seul raisonnable, le seul pratique, le seul qui lui offrit quelque chance de fortune. Et un soir, surmontant ses dernières répugnances, « Je vais en parler à mon père, » dit-il à Mademoiselle Lucienne. Mais, soit que véritablement il eût été influencé par la courageuse révélation de M. Costeclar, soit pour tout autre motif, M. Favoral rejeta bien loin la requête de son fils, disant qu'il était impossible de confier un emploi un garçon qui était en train de gâter son avenir pour une créature perdue. Maxence était devenu cramoisi de colère en entendant traiter ainsi une femme qu'il aimait éperdument et qui, bien loin de le perdre, le sauvait. Il avait essayé de la défendre, mais bien inutilement, et il était revenu à l'hôtel des Folies dans un état d'exaspération indescriptible. « Voilà où aboutit la démarche que vous m'avez conseillée, » dit-il à Mademoiselle Lucienne, après lui avoir raconté ce qui venait de se passer. Elle n'en parut ni surprise ni irritée. Oh, c'est bien, répondit-elle simplement. Mais Maxence ne pouvait prendre si placidement son parti d'une si cruelle déception, et à milieu de soupçonner M. Costeclar. Ben, pourquoi, ajouta-t-il, le résultat des cancans de tous ces boutiquiers stupides qui, dès que vous sortez en voiture, accourent sur le seuil de leur porte? Dédaigneusement, la jeune fille haussa les épaules. Je l'avais prévu, fit-elle, le jour où j'ai accepté les offres de M. Van Kloppen. Et tout le monde vous croirait ma maîtresse. Que m'importe, puisque ce n'est pas. Ce que Maxence n'osait avouer, c'est que c'était là précisément ce qui redoublait sa colère. C'est que, songeant à ce terrible qu'en dira-t-on, qui est la boussole des imbéciles et des faibles, il se demandait ce qu'on penserait de lui si la vérité venait à être connue et s'il ne serait pas couvert de ridicule. Nous devrions déménager, reprit-il. À quoi bon? Partout où nous serions, ce serait la même chose. Nos relations offrent trop de prise à la calomnie pour qu'elles nous épargnent. Je tiens à ce quartier, d'ailleurs. Et moi, je suis trop votre ami pour ne pas vous avouer que vous y êtes absolument perdu de réputation. Je n'ai de compte à rendre à personne, sauf à votre ami le commissaire de police, cependant. Un pâle sourire effleura les lèvres de la jeune fille. Oh, lui, prononça-t-elle, il sait la vérité. Vous l'avez donc revu? Oui, plusieurs fois. Depuis que nous nous connaissons? Oui. Et vous ne me l'avez pas dit? Oh, je n'ai pas cru que ce fût nécessaire. Maxence n'insista pas, mais à la douleur aiguë qui le mordit au cœur, il comprit combien Mademoiselle Lucienne lui était chère. Elle a des secrets pour moi, se disait-il, pour moi qui ne serais fait un crime d'en avoir pour elle. Quel secret! Lui avait-elle dissimulé qu'elle poursuivait un but qui était en quelque sorte devenu celui de sa vie? Lui avait-elle caché que, soutenu, stimulé et servi par son ami l'officier de paix, devenu le commissaire de police du quartier, elle espérait pénétrer le mystère de sa naissance et se venger des misérables qui, par trois fois, avaient essayé de se défaire d'elle? Jamais elle n'avait reparlé de ses projets, mais il était évident qu'elle ne les avait pas abandonnés, car elle eût du même coup renoncé à ses exhibitions au bois de Boulogne, qui était un abominable supplice. Mais la passion ne raisonne ni ne discute. Elle se défie de moi, qui donnerais ma vie pour elle, répétait Maxence. Et cette idée lui était si pénible qu'il résolut de s'en déclarer coûte que coûte, préférant le pire malheur à l'angoisse qui le déchirait. Et dès qu'il se retrouva seul avec Mademoiselle Lucienne, s'armant de tout ce qu'il avait de courage et la regardant bien dans les yeux, vous ne me parlez plus de vos ennemis, lui dit-il d'un ton brusque. Elle dut deviner ce qui se passait dans lui et doucement. Oh, c'est que je n'en entends plus parler moi-même, répondit-elle. C'est qu'il ne donne plus signe de vie. Mais vous avez renoncé à vos desseins? Aucunement. Et quelles sont donc vos espérances et où en sont-elles? Eh bien, si extraordinaire que cela doit vous paraître, je vous avouerai que je n'en sais rien. Mon ami, le commissaire de police, a son plan, j'en suis sûr, et il le poursuit avec une obstination que rien ne lasse, mais il ne me l'a pas confié. Je ne suis entre ses mains qu'un instrument docile. Jamais je ne prends une détermination sans le consulter, et ce qu'il me dit de faire, je le fais. Maxence tressauta sur sa chaise. Est-ce donc lui, dit-il d'un accent d'amère ironie, qui vous a suggéré l'idée de notre association fraternelle? Les sourcils de la jeune fille se froncèrent. Le ton de cette espèce d'interrogatoire la blessait visiblement. Il ne l'a pas désapprouvé, lui dit Brun, dit-elle. Mais cette réponse était assez juste et évasive pour irriter l'inquiétude de Maxence. Est-ce de lui aussi, poursuivit-il, que vous est venue cette belle inspiration de me faire entrer au comptoir de crédit mutuel? Oui, c'est lui. Et dans quel but? Oh, il ne me l'a pas expliqué. Et pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Ben parce qu'il m'avait prié de ne pas vous prévenir. De rouge qu'il était au début, Maxent devint fort pâle. Ainsi, reprit-il, c'est cet homme de police qui décidément est l'arbitre de ma destinée. Et si demain il vous commandait de rompre avec moi? Mademoiselle Lucienne se dressa. Assez, interrompit-elle d'une voix brève, assez. Il n'est pas dans ma vie un acte qui donne à mon plus cruel ennemi le droit de suspecter ma loyauté. Et voici que vous m'accusez d'une lâche trahison. Mais qu'avez-vous à me reprocher? N'ai-je pas été toujours fidèle au pacte d'alliance juré entre nous? N'ai-je pas été toujours pour vous le meilleur des camarades et le plus dévoué des amis? Je me suis tue quand l'homme en qui j'avais toute confiance me priait de me taire, mais il savait que si vous m'interrogiez, je parlerais. Il était prévenu. M'avez-vous interrogé? Et maintenant, que vous faut-il de plus? Que je me justifie d'une accusation absurde? Que je m'abaisse jusqu'à calmer les soupçons de votre esprit malade? Ah non, c'est ce que je ne ferai pas. Elle n'avait peut-être pas absolument raison. Même Maxence avait tort, il le reconnut. Il implora un pardon qui lui fut accordé, et cette explication ne fit que resserrer les liens déjà si forts qui l'attachaient. Il est vrai qu'à dater de ce jour, usant de la permission qui lui avait été donnée, il s'informa sans cesse des démarches et des espérances de Mademoiselle Lucienne. Elle lui apprit que son ami le commissaire s'était livré à Louveciennes aux plus minutieuses investigations. Elle lui apprit que désormais, le valet de pied qui l'accompagnait au bois n'était pas un valet de pied de chez Brion, mais bien un agent de la sûreté. Et enfin un jour, mon ami le commissaire, dit-elle, prétend qu'il tient enfin la bonne piste. Telle était exactement la situation de Maxence et de Mademoiselle Lucienne ce samedi soir du mois d'avril 1872, où la police se présenta à rue Saint-Gilles pour arrêter M. Vincent Favoral, accusé de détournement de faux. Si terrible fut le coup, si soudain et si imprévu, que Maxence tout d'abord en perdit jusqu'à la faculté de réfléchir. Mais lorsqu'il eut assuré l'évasion de son père, après que le commissaire de police eut achevé ses perquisitions, dès que se furent retirés les anciens amis du caissier du Crédit Mutuel, M. Chapelain, M. et Mme Deschavettes et le papa des Ormeaux, c'est vers Mademoiselle Lucienne que s'élancèrent toutes les pensées de Maxence. Elle avait pris sur lui un si complet empire, il s'était si invinciblement accoutumé à se reposer sur elle, à la consulter en tout, à n'agir que d'après ses inspirations, que, séparé d'elle au moment d'une crise affreuse, il était comme un corps sans âme. Il brûlait de courir jusqu'à l'hôtel des Folies, raconter à Mademoiselle Lucienne ce qui se passait en lui demandant des consolations, du courage et des conseils. Sur les instances de Madame Favoral et de Mademoiselle Gilberte, il resta rue Saint-Gilles. Et c'était un cruel sacrifice, car il songeait que Mademoiselle Lucienne l'attendait. Ils devaient ce soir-là aller ensemble au théâtre, et ils avaient projeté de passer à la campagne la journée du lendemain. Et il se disait, mais que va-t-elle imaginer en ne me voyant pas rentrer? Aussi, le lendemain, lorsqu'il vit sa mère s'apprêter pour sortir et se rendre avec M. Chapelain chez le directeur du comptoir du Crédit Mutuel, il n'y tint plus. Et sans se préoccuper des inconvénients qu'il pouvait y avoir à laisser sa sœur seule à la maison, il partit comme un fou. Il était désespéré, déchiré d'angoisse, mais au-dessus de tout se dressait le souvenir de Mademoiselle Lucienne. C'est à elle qu'il pensait, lorsqu'arrivait jusqu'à lui comme des éclaboussures les réflexions injurieuses des gens qu'il regardait passer. C'est d'elle qu'il s'inquiétait en lisant dans un journal qu'il venait d'acheter au coin de la rue Charlot les détails scandaleux du crime de son père. Et lorsqu'il fut arrivé à l'hôtel des Folies, c'est avec d'atroces palpitations de cœur qu'il montait l'escalier lorsqu'il reconnut la voix de la jeune fille. « Elle chante, murmura-t-il, elle ne sait rien, la fortune lui a rien dit. » Elle était en tout cas fort irritée, il le reconnut à son accent, qu'en ayant frappé à la porte de sa chambre, elle lui cria qu'elle achevait de s'habiller, qu'il n'avait qu'à rentrer chez lui et qu'elle ne tarderait pas à l'y rejoindre. Il gagna donc sa chambre, et c'est en proie au plus sombre découragement qu'il se laissa tomber dans son fauteuil, meuble ami où tant de fois il s'était oublié en ses vagues rêveries d'avenir qui consolent des misères présentes. Mademoiselle Lucienne avait repris sa chanson, dont les paroles lui arrivaient comme une amère raillerie. Elle disait de sa voix claire, « Espoir, mot doux et trompeur, trop fausse monnaie, bien fou qui de toi se paie et fait crédit au bonheur. Au-dessus de sa boutique, chaque est accroche et fait bien, ô vieille enseigne ironique, orage de main pour rien. C'est joli de courir, mieux vaut encore te dire. » Que va-t-elle dire, songeait Maxence, quand elle apprendra l'horrible désastre? Il sentait comme une sueur glacée lui parler aux tempes, en se rappelant l'orgueil de Mademoiselle Lucienne, et que l'honneur était sa seule croyance, et la planche de salut où, désespérément, elle s'était cramponnée au plus fort des orages de sa vie. Si elle allait s'éloigner de lui, maintenant que le nom qu'il portait était déshonoré, mais un pas rapide et léger sur le palier le tira de ses sombres réflexions. La porte s'ouvrit presque aussitôt et Mademoiselle Lucienne entra. Elle avait dû se hâter car elle achevait d'agrafer sa robe dont la simplicité semblait une coquetterie, tant merveilleusement elle accusait la souplesse de sa taille, les splendeurs de son corsage et les rares perfections de ses épaules et de son col. Un vif mécontentement se lisait sur son beau visage. Mais dès qu'elle eut aperçu Maxence, sa physionomie changea. Et il ne fallait en effet que voir le morne affaissement de l'infortuné, le désordre de ses vêtements, sa pâleur livide et l'éclat sinistre de ses yeux, pour comprendre qu'un grand malheur le frappait. D'une voix dont le trouble trahissait quelque chose de plus que l'inquiétude et la compassion d'une amie, « Qu'avez-vous? Que vous arrive-t-il ? » interrogea la jeune fille. « Oh, je suis bien malheureux, » répondit-il. Mais il hésitait. Il eût voulu pouvoir dire tout d'un coup, et il ne savait pas comment commencer. « Je vous ai dit, » reprit-il, « que ma famille était très riche. »«
Oui ?»«
Eh bien, nous ne possédons plus rien. » Plus rien, exactement. Elle parut respirer plus librement et d'un accent où perçait une amicale ironie. « Et c'est la perte de votre fortune, dit-elle, qui vous désespère ainsi ?» Péniblement, il se dressa sur ses jambes et, tout bas, d'une voix sourde, « C'est que l'honneur aussi est perdu, prononça-t-il.
« L'honneur ?»
Oui, oui, mon père a volé, mon père a fait défaut. » Elle était devenue plus blanche que sa collerette.
Votre père ? Balbutia-t-elle.
Oui, depuis des années, il puisait dans la caisse qui lui était confiée, à pleine main, sans mesure, follement, tel qu'un homme pris de vertige. Il a puisé 12 millions.
Oh, mon Dieu !
Et malgré l'énormité de cette somme, il était en ces derniers mois réduit aux plus misérables expédients. Il s'en allait de porte en porte dans notre quartier, demander qu'on lui confiât des fonds à faire valoir,
Il en était venu à escroquer bassement 500 francs à une pauvre marchande de journaux. Mais c'est insensé. Oui, c'est à douter si on veille ou si on rêve. Et comment avez-vous su? Oh, hier soir, on est venu pour l'arrêter. Par bonheur, nous étions prévenus, et j'ai pu le faire fuir par une fenêtre de la chambre de ma sœur, qui donne sur la cour d'une maison voisine. Et où est-il maintenant? Oh, qui le sait? Avait-il de l'argent? Tout le monde est persuadé qu'il emporte des millions. Oh, je ne le crois pas. Il n'a même pas voulu prendre les quelques 1 000 francs que M. de Thaler lui avait apportés pour faciliter sa fuite. La jeune fille tressaillit. « Vous avez vu M. de Thaler ? » interrogea-t-elle. « Oui, il est venu à la maison, quelques moments avant l'arrivée du commissaire de police. Il y a eu, entre mon père et lui, une scène terrible. Et que disait-il ? Que mon père le ruinait. Et votre père ? Il balbutiait des phrases incohérentes. Il était comme un homme qui vient de recevoir un coup de massue. » La contraction des traits de Mademoiselle Lucienne trahissait l'effort de sa pensée. « Et ces sommes énormes, reprit-elle, où ont-elles passé ?» Maxence hocha la tête. « Oh, nous ne pouvons que le soupçonner, répondit-il. Mais nous avons découvert des choses inouïes. Mon père, si sévère à la maison et si parcimonieux, menait ailleurs joyeuse vie et dépensait sans compter. C'est pour une femme qu'il pillait sa caisse. Et cette femme, savez-vous qui elle est? Non, non, mais je le saurai. Dans ce journal que voici et qui rencontre notre désastre, un rédacteur dit qu'il la connaît. Lisez plutôt. Mademoiselle Lucienne prit le journal que lui tendait Maxence, mais c'est à peine si elle daigna y jeter un coup d'œil. En fin de compte, reprit-elle, et pour nous résumer, avez-vous une idée? Oui. Laquelle? Je ne crois pas que mon père soit innocent, mais je crois qu'il est des gens plus coupables que lui, des gredins habiles et prudents dont il n'a été qu'un homme de paille, des misérables qui digéreront tranquillement leur part de millions, la plus grosse nécessairement, tandis qu'il ira au bagne. Une fugitive rougeur colora les joues de Mademoiselle Lucienne. « Cela étant, interrompit-elle, que comptez-vous faire ?»« Venger mon père, s'il se peut, et livrer ses complices s'il en a. » La jeune fille lui tendit la main. « Bien cela, fit-elle. Mais comment vous y prendrez-vous ? » « Ben, c'est ce que je ne sais pas encore. » Je vais toujours courir au bureau de ce journal, demander l'adresse de la femme. Mais Mademoiselle Lucienne l'arrêta. Non, non, prononça-t-elle, ce n'est pas là qu'il faut aller. Cependant, il faut venir avec moi, chez mon ami le commissaire de police. C'est par un mouvement de stupeur, presque d'effroi, que Maxence accueillit la proposition de la jeune fille. Mais... « Savez-vous bien ce que vous me dites? Songez bien ce que vous me dites !» s'écria-t-il. « Parfaitement. Quoi, mon père s'est soustrait au mandat d'amener lancé contre lui? Il est poursuivi, recherché, traqué. Si on le prend, c'est le bagne, peut-être. Et vous voulez que j'aille, moi, choisir pour confident de mes démarches et de mes espérances un commissaire de police ?» Un homme dont le devoir serait de courir l'arrêter s'il apprenait où il se cache. Mais il s'interrompit et demeura un moment la bouche béante et les yeux écarquillés, comme si tout à coup la vérité lui était apparue, éblouissante d'évidence. « Car mon père n'a pas gagné l'étranger, reprit-il. C'est à Paris qu'il se cache. Oh, je le parierai, j'en suis sûr. Vous l'avez vu. » Positivement, Mademoiselle Lucienne crut que Maxence devenait fou. « J'ai vu votre père, moi ? » dit-elle. « Oui, hier soir. Mon Dieu, où donc avez-je la tête d'oublier cela ? Pendant que vous m'attendiez en bas, dans la loge des Fortins, entre 11h et 11h30, Un homme d'un certain âge, grand, maigre, vêtu d'une longue redingote, est venu me demander et a paru très contrarié quand on lui a répondu que je n'étais pas rentré. Oui, je me rappelle, en effet. Alors vous avez quitté la loge, et cet homme est sorti presque sur vos talons, et dans la cour, il vous a parlé. Oui, c'est vrai. Et que vous a-t-il dit? Elle hésita, faisant un appel à sa mémoire. Puis, rien, répondit-elle, rien, rien qu'il n'eût déjà dit devant les Fortins, qu'il était très malheureux pour lui de ne vous pas trouver, parce qu'il s'agissait d'une affaire assez grave. Et ce qui m'étonnait un peu, c'est qu'il semblait me connaître et savoir qu'il s'adressait à une amie à vous. J'ai pensé ensuite que c'était quelqu'un de vos collègues du chemin de fer à qui vous aviez parlé de moi. Mais à mesure qu'elle racontait, quantité de petites circonstances qu'il n'avait pas éclairées sur le moment se représentaient à son esprit. Et se frappant le front, « Mais peut-être avez-vous raison, » poursuivit-elle. « Peut-être cet homme, oui, était-il votre père? Attendez donc. » Oui, assurément, il était fort troublé, et à chaque moment, il tournait la tête du côté de l'entrée. Il m'a dit qu'il lui serait impossible de revenir, mais que vous sauriez pourquoi, qu'il vous écrirait, qu'il aurait sans doute besoin de vous, et qu'il comptait sur votre dévouement. Maxence trépignait sur place. Vous voyez bien? S'écria-t-il. Quoi? Mais que c'était mon père, et qu'il m'écrira sûrement, qu'il reviendra peut-être, et que dans de telles conditions, m'adresser au commissaire de police, appeler sur moi son attention, serait une insigne folie, presque une trahison. Elle secouait la tête. Je crois, prononça-t-elle, que c'est une raison de plus de suivre mon conseil. Oh! Vous êtes-vous jamais repenti de m'avoir écouté? Non, mais vous pouvez vous tromper. Oh, je ne me trompe pas. Et elle s'exprimait d'un tel accent d'absolue certitude que Maxence, dans le désordre de son esprit, ne savait plus ni qu'imaginer ni que croire. Mais pour me presser ainsi, reprit-il, vous avez des raisons? J'en ai. Et pourquoi ne pas me les dire? Parce que je n'aurais pas de preuves à vous fournir de mes assertions. Parce que il me faudrait entrer dans des détails que vous ne comprendriez pas. Parce qu'enfin, j'obéis à un de ces pressentiments inexplicables qui ne sauraient mentir. Elle ne voulait pas, c'était clair, découvrir toute sa pensée. Et cependant, Maxence se sentait terriblement ébranlé. Mais songez à mon désespoir, fit-il, si j'allais livrer mon père. Mais le mien serait-il donc moindre? Un malheur peut-il vous atteindre qui ne m'atteigne moi-même? Et comme il ne répondait pas, déchiré qu'il était par les plus affreuses perplexités, et raisonnons un peu, poursuivit la jeune fille. Que me disiez-vous il n'y a qu'un instant? Certainement, votre père n'est pas si coupable qu'on croit. Qu'il ne l'est pas seul, en tout cas, qu'il n'a été que l'instrument de quelqu'un plus habile et plus puissant que lui, et qu'il n'a eu qu'une bien faible part des 12 millions volés au comptoir de crédit mutuel. Oui, oh, c'est ma conviction. Et vous voudriez livrer à la justice les misérables qui ont profité du crime de votre père et qui se croient assurés de l'impunité. Je ne sais ce que je donnerais pour y parvenir. Eh bien, comment y parviendriez-vous? Isolé comme vous l'êtes, suspect fatalement, sans moyen d'action, sans appui, sans relation, sans argent. Une larme de rage jaillit des yeux de Maxence. Oh, mais voulez-vous donc m'enlever mon courage? Murmura-t-il. Non. Mais vous démontrez la nécessité de la démarche que je vous conseille. Qui veut la fin veut les moyens, et nous n'avons pas le choix. Venez, c'est un honnête homme que je veux vous conduire, un ami éprouvé. Ne craignez rien. S'il se souvient qu'il est commissaire de police, ce sera pour nous être utile et non pas pour nous nuire. Vous hésitez? Peut-être à cette heure en sait-il déjà plus que nous n'en savons nous-mêmes. » La résolution de Maxence était prise. « Soit, dit-il, partons. » En moins de 5 minutes, ils furent prêts et ils partirent. Et même pour sortir, il leur fallut déranger la Fortin, qui, devant la porte de son hôtel, était en grande conférence avec 2 ou 3 boutiquiers du voisinage. Dès que Maxence et Mademoiselle Lucienne se furent éloignés, remontant le boulevard du Temple, « Voyez ce jeune homme, dit à ses interlocuteurs l'honorable propriétaire de l'hôtel des Folies. Eh bien, c'est le fils de ce fameux caissier qui vient de décamper en apportant 12 millions et en mettant 1000 familles sur la paille. Vous voyez peut-être ça le jeune. Eh bien oui, le voilà qui va passer une bonne journée avec sa maîtresse et lui payer un bon dîner avec l'argent du papa. » Maxence et Mademoiselle Lucienne, cependant, arrivaient à la maison du commissaire. Ils étaient chez lui, ils entrèrent, et dès qu'ils parurent, « Je vous attendais !» s'écria-t-il. C'était un homme d'un certain âge, déjà mais alerte encore et vigoureux. Il avait l'air d'un notaire avec sa cravate blanche, sa redingote noire et ses guêtres. Bénigne était l'expression de sa physionomie, mais il était naïf d'ossifier. On le devinait à l'éclat de ses petits yeux gris et à la mobilité de ses narines. « Oui, je vous attendais, » poursuivit-il, s'adressant autant à Maxence pour le moins qu'à Mademoiselle Lucienne. « C'est l'affaire du crédit mutuel qui vous amène. » Maxence avança. « Je suis le fils de Vincent Favorable, monsieur, » répondit-il. « J'ai encore ma mère et une sœur. Notre situation est affreuse. Mademoiselle Lucienne m'a fait espérer que vous consentiriez à me donner un conseil, et nous voici. » Le commissaire sonna, et un garçon de bureau s'étant présenté, « J'y suis pour personne, » dit-il. Après quoi, revenant à Maxence, « Mademoiselle Lucienne a bien fait de vous amener, » lui dit-il, « car il se pourrait fort bien que tout en lui rendant un grand service à elle, que j'estime et que j'aime, je vous en rendrai un à vous aussi, qui êtes un brave garçon. Mais j'ai pas le temps de pas perdre, asseyez-vous et contez-moi votre affaire. » C'est avec la plus scrupuleuse exactitude qu'après avoir dit l'histoire de sa famille, Maxence exposa les scènes dont depuis 24 heures la maison de la rue Saint-Gilles avait été le théâtre. Pas une seule fois le commissaire ne l'interrompit, mais lorsqu'il eut achevé, « Redites-moi, » demanda-t-il, « l'entrevue de votre père et de monsieur de Thaler, et surtout ne mettez rien de ce que vous avez entendu et vu, ni un mot, ni un geste, ni un mouvement de physionomie. » Et Maxence ayant obéi, « Maintenant, » reprit le commissaire, « répétez-moi tout ce qu'a dit votre père au moment de fuir. » Ce fut fait. Le commissaire de police prit quelques notes, puis « Quelles étaient, demanda-t-il, les relations de votre famille et de la famille de Thaler ?»« Oh, nous n'avions pas de relations. »« Quoi, jamais, madame ni mademoiselle de Thaler ne venaient chez vous ?»« Jamais. »« Connaissez-vous le marquis de Trégard ?» Maxence ouvrit de grands yeux. « Trégard ?» répéta-t-il. « Non, non, non. » C'est la première fois que j'entends prononcer ce nom. Les justiciables ordinaires du commissaire de police eussent hésité à le reconnaître, tant peu à peu s'était détendue sa raideur professionnelle, tant sa réserve glaciale avait fait place à la plus encourageante bonhomie. « Cela étant, reprit-il, laissons-là le marquis de Trégard et occupons-nous de la femme qui, selon vous, aurait causé la perte de M. Favoral. » Sur la table, devant lui, Maxence apercevait tout ouvert le journal qu'il avait acheté le matin, où il avait lu, avec des convulsions de rage, le terrible article intitulé « Encore un désastre financier ».« Je ne sais rien de cette femme, » répondit-il, « mais Apprendre qui elle est ne doit pas être difficile, puisqu'un rédacteur du journal que voilà prétend la connaître. Au léger sourire qui passa sur les lèvres du commissaire, il fut aisé de voir que sa foi à la chose imprimée n'était pas précisément absolue. « Oui, je l'ai lu, » fit-il. « On pourrait t'envoyer au bureau de ce journal, » proposa mademoiselle Lucienne. « J'y ai envoyé, mon enfant. » Et sans paraître remarquer la stupeur de Maxence et de la jeune fille, il sonna et demanda si son secrétaire était rentré. Il l'était et parut aussitôt. « Eh bien ?» interrogea le commissaire. « La commission est faite, monsieur, » répondit-il. « J'ai vu le reporter qui a rédigé l'article en question, et après avoir bien tergiversé, il a fini par m'avouer qu'il s'était peut-être un peu avancé, qu'il n'avait pas d'autres renseignements que ceux qu'il avait donnés et qu'il les tenait de deux amis intimes du caissier du comptoir de crédit mutuel, M. Costelard et M. Saint-Pavin. Il fallait courir chez ces messieurs. J'y ai couru, à la bonne heure. Malheureusement, M. Costelard venait de sortir. Et l'autre? J'ai trouvé l'autre, M. Saint-Pavin, au bureau de son journal, le pilote financier. C'est un grossier personnage, qui m'a reçu comme un chien dans un jeu de quilles, et même si je m'étais écouté... Passons. Alors donc, il était en grande conférence avec un autre monsieur, un banquier nommé Jotras, de la maison de Jotras et son frère, et ils étaient dans une colère épouvantable, jurant à faire crouler le plafond, disant que l'affaire de M. Favoral les ruinait, qu'ils étaient joués comme des imbéciles, mais que cela ne se passerait pas ainsi et qu'ils allaient rédiger un article foudroyant. Mais il s'arrêta, clignant de l'œil et montrant Maxence et Mademoiselle Lucienne qui écoutaient de toute leur force. « Parlez, parlez, » dit le commissaire, « ne craignez rien. »« Eh bien, » reprit-il, « Monsieur Saint-Pavin et Monsieur Jotras disaient comme cela que ce ne serait pas à Monsieur Favoral qu'il s'en prendrait, et que Monsieur Favoral n'était qu'un pauvre niais, mais qu'il saurait bien trouver les autres. »« Quels autres ?»« Ah, dame, ils ne les ont pas nommés. » Le commissaire haussa les épaules. « Quoi ? » s'écria-t-il. « Vous vous trouvez en présence de deux hommes furieux d'avoir été pris pour dupes, qui tempêtent, qui jurent, qui menacent, et vous ne savez pas leur arracher un nom dont vous avez besoin ? Décidément, vous n'êtes pas à droit, mon cher. » Et comme le pauvre secrétaire, tout décontenancé de l'algarade, baissait le nez et gardait le silence, « Leur avez-vous au moins demandé, » reprit-il, qui est cette femme sur laquelle l'article promet des détails et dont l'existence a été révélée par eux au rédacteur. Assurément, monsieur. Et que vous ont-ils répondu? Que n'étant pas des mouchards, ils n'avaient rien à me répondre. Peste! Monsieur Saint-Pavin, toutefois, ajoutait qu'il avait dit cela en l'air, uniquement parce qu'un journal y avait vu Monsieur Favoral achetait un bracelet de 1000 écus, et aussi parce qu'il lui paraissait impossible qu'un homme dévorât des millions sans y être aidé par une femme. Le commissaire ne cachait pas sa mauvaise humeur. Naturellement, grogna-t-il. Depuis que Salomon a dit « cherchez la femme », car c'est le roi Salomon qui a dit cela le premier. Tous les matins, il se trouve quelques gaillards pour découvrir qu'une femme toujours se trouve au fond de toutes les actions d'un homme, et quantité de gens se sont fait une réputation de profondeur pour avoir émis d'un air fin cette vérité digne de monsieur de la Palice. Et après, même monsieur Saint-Pavin m'a prié grossièrement de lui laisser la paix. « Oh, il faudrait tout faire soi-même !» grommela le commissaire de police. Sur quoi, il griffonna rapidement quelques lignes et les glissa dans une enveloppe qu'il scella de son timbre et qu'il remit à son secrétaire en disant « Il suffit, portez ceci vous-même à la préfecture. » Et le secrétaire sortit. « Eh bien, monsieur Maxence, reprit-il, vous avez entendu ? Oui, assurément. Seulement Maxence était bien moins préoccupé de ce qu'il venait d'entendre que de l'étrange intérêt que ce commissaire, même avant de l'avoir vu, avait pris à sa situation. Je pense, balbutia-t-il, qu'il est bien malheureux que cette femme ne puisse pas être retrouvée. Plein de confiance fut le geste du commissaire. Soyez tranquille, dit-il, on la retrouvera. Si grand appétit qu'est une femme, elle n'avale pas comme cela des millions toute seule. Elle ne les avale pas surtout sans qu'on entende le bruit de ses mâchoires. Paris est grand, mais avec 50 000 francs de luxe par an, une femme attire l'attention et avec 100 000, elle fait esclandre. Voyez plutôt ce qui arrive à notre pauvre Lucienne. Pour 10 louis par semaine de luxe d'occasion que lui offre le sieur Van Kropen, son patron. Croyez-moi donc, nous retrouverons votre mangeuse de millions, à moins que. Il fit une pause, et lentement, en soulignant chacun de ses mots, à moins, ajouta-t-il, qu'elle n'ait derrière elle un homme très fort, très habile et très prudent, ou à moins encore qu'elle ne soit dans une situation telle que son luxe n'ait point fait scandale. Mademoiselle Lucienne tressauta sur sa chaise. Il lui sembla comprendre toute la pensée de son ami le commissaire de police et entrevoir quelque chose de la vérité. Mon Dieu! Murmura-t-elle. Même Maxence, lui, ne remarqua rien, appliqué qu'il était à suivre la déduction du commissaire. Ou à moins, reprit-il, que mon père n'ait presque rien eu pour sa part des sommes énormes enlevées au crédit mutuel. À moins, par conséquent, qu'il n'ait donné que peu de choses relativement à cette femme. Monsieur de Saint-Pavin lui-même n'en connaît-il pas que mon père a été audacieusement joué? Mais par qui? Maxence hésita. Je pense, dit-il enfin, et plusieurs amis de ma famille, parmi lesquels Monsieur Chapelain, un ancien avoué, pensent comme moi. Qu'il est bien difficile que mon père ait pu puiser des millions à la caisse du Crédit Mutuel sans que le directeur en ait eu connaissance. Alors, selon vous, monsieur de Thaler serait complice? Maxence ne répondit pas. Soit, insista le commissaire, j'admets la complicité de monsieur de Thaler, mais alors, il faut supposer qu'il avait sur votre père quelque tout-puissant moyen d'action. Oh, le directeur a toujours sur ses employés une grande influence. Une influence qui irait jusqu'à les déterminer à risquer le bail à son profit. Ce n'est guère vraisemblable. Il faudrait imaginer autre chose encore. Je cherche, mais je ne vois pas. C'est cependant pas tout. Comment expliquez-vous le silence de votre père lorsque M. de Thaler l'accablait des injures les plus atroces? Mon père était comme foudroyé. Et au moment de fuir, s'il avait des complices, comment ne vous a-t-il pas nommé à vous, à votre mère, à votre sœur? C'est que sans doute il n'avait pas de preuves à fournir de leur complicité. Et lui en auriez-vous donc demandé? Oh, monsieur! Donc, tel n'est pas évidemment le motif de son silence. Il faudrait l'attribuer plutôt à quelque secret espoir qui lui serait resté. Le commissaire, cependant, avait désormais tous les renseignements que, volontairement ou non, pouvait lui fournir Maxence. Il se leva et, du ton le plus bienveillant, vous êtes venu, lui dit-il, me demander un conseil, le voici. Taisez-vous et sachez attendre. Laissez la justice et la police poursuivre leur œuvre. On n'arrête pas comme un simple filou le puissant gredin qui a volé des millions. Quels que soient vos soupçons, cachez-les. Je ferai pour vous ce que je ferai pour Lucienne, que j'aime comme si elle était ma fille, car il se trouve qu'en vous servant, c'est elle que je vais servir. Il ne put s'empêcher de rire de l'étonnement qui, à ces mots, se peignit sur le visage de Maxence et gaiement. Vous comprenez pas, ajouta-t-il, eh bien peu importe. Il n'est pas nécessaire que vous compreniez.